Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Cette semaine, la foire bilingue de l'emploi de Toronto attire près de 900 personnes.
Depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal d'entreprises et ça se passe plutôt bien, donc j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu.
Deux jeunes Françaises en service civique à Halifax découvrent leur nouveau territoire.
En fait, moi je suis venue un petit peu sans a priori et sans attente particulière, juste m'enrichir de rencontres, aussi d'expériences professionnelles et personnelles.
En Nouvelle-Écosse, l'écrivaine Martine Jacquot, finaliste au prix littéraire Antonine Maillet, Acadie Vie 2023.
C'est vraiment une reconnaissance énorme et là, le prix quinquennal, c'est encore plus important parce que je sens que quelque part, il y a des gens qui ont compris la quantité de travail qu'il y a dans l'écriture de livres, dans des années d'écriture de livres.
Les programmes publics d'éducation en français de la Nouvelle-Écosse reçoivent un sérieux coup de pouce avec le dépôt du projet de loi 321. Et le conflit israélo-palestinien inquiète le monde entier. Marie Hillès va nous en parler.
J'ai un fils qui est en Israël. Je texte constamment avec lui. Il passe des heures dans les abris-bombes, dans les bunkers. Il est allé aujourd'hui à ses 3e funérailles pour des amis de sa copine qui, elle, est israélienne. Sur la route du retour, des attaques massives de missiles ont lieu.
Ceci est un peu plus à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci de nous tenir compagnie. Vous le voyez, on a une émission chargée pour vous, comme à l'habitude. On se lance d'abord et on se tourne vers les arts et la culture qui guérissent. Tous les mots et par les temps qui courent, pourquoi s'en priver? Pour vous dire que l'écrivaine poète acadienne Martine Jacquot de la Nouvelle-Écosse est l'une des finalistes pour le prix littéraire Antonine Maillet Acadie Vie de 2023, ceci dans la catégorie prix quinquennal. Ce prix reconnaît tous les 5 ans, donc, une autrice, un auteur francophone acadien pour l'ensemble de son œuvre, toutes catégories littéraires confondues. Le nom de Martine Jacquot, qui a étudié la littérature et le journalisme, a été sélectionné par un jury indépendant, formé d'ambassadeurs acadiens de langue française. 33 candidatures ont été considérées. L'œuvre de Martine Jacquot, poète, romancière, nouvelliste, essayiste et auteur jeunesse, est reconnue dans le monde entier. Martine Jacquot a au cours de sa vie été honorée de plusieurs distinctions pour son engagement et son écriture. Elle est d'ailleurs régulièrement invitée à faire des tournées littéraires. Les deux autres finalistes du prix quinquennal sont Cindy Roy de Dieppe et Marie-France Comeau de Dalhousie. Les noms des lauréats seront dévoilés lors de la 24e cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 21 octobre prochain à Dieppe. Notre journaliste Daniel Aucoin discute de littérature et d'écriture avec Martine Jacquot.
Pour l'auteur Martine Jacquot, la nomination comme finaliste du prix littéraire Antonine Maillet, Acadie Vie, représente une reconnaissance de la communauté. Elle souligne que pour elle, il est toujours agréable de voir que les gens apprécient ce qu'elle fait. Martine Jacquot nous partage sa première réaction en apprenant la nouvelle de sa nomination au prix.
Mais j'étais très contente, bien sûr. C'est le prix quinquennal, hein, donc il y a deux prix, il y a 3 volets à ce prix. Il y a le prix jeunesse, le prix annuel et le prix quinquennal. Donc, j'avais été une fois finaliste au prix annuel, ce qui était déjà beaucoup. Pour moi, être finaliste, c'est vraiment une reconnaissance énorme. Et là, le prix quinquennal, c'est encore plus important parce que je sens que quelque part, il y a des gens qui ont compris la quantité de travail qu'il y a dans l'écriture de livres, dans des années d'écriture de livres.
Martine Jacquot précise que la Nouvelle-Écosse est un très bel endroit pour écrire. La nature l'inspire. L'auteur nous parle ici de son genre d'écriture préféré.
C'est dur à répondre. Ça dépend un petit peu de ce que j'ai à dire pour le texte auquel je travaille. Disons que le roman est probablement mon genre préféré dans le sens où c'est ce que les gens préfèrent lire. Parce que je pense que les gens, ils aiment une bonne histoire. Puis un roman, c'est quelque chose dans lequel c'est une aventure dans laquelle on part. On va être longtemps avec nos personnages, on va avancer avec eux dans leur histoire. Mais la poésie, pour moi, c'est aussi quelque chose de je dirais presque thérapeutique, parce que c'est un peu comme écrire directement du cœur. Hein. C'est une façon d'écrire sur nos émotions, sur nos aussi bien joyeuses que tristes.
Nous avons demandé à Martine Jacot de nous partager ses conseils pour les jeunes ou de nouveaux auteurs qui hésitent à écrire des romans en français. On écoute ici sa réponse.
Mais si les gens ont vraiment une histoire à raconter, n'hésitez pas. Parce que souvent les gens hésitent à cause de, ben, on sait pas où on s'en va. Est-ce que les gens vont être intéressés à nous lire? Est-ce qu'il va y avoir un éditeur et tout? Mais si vraiment vous avez une histoire en tête, écrivez-la, sans vous poser trop de questions sur comment les gens vont réagir. Et puis n'hésitez pas à demander des conseils aux autres, des gens qui vont être honnêtes, qui vont donner leur opinion. Pour les corrections, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider. Souvent, les gens ont peur parce qu'on dit « Ah, je fais des fautes » ou des choses comme ça. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va corriger. Donc, il ne faut pas se laisser bloquer.
Fondée en 1998 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de Fondation d'Acadivie, le prix littéraire Antonine Maillet Acadivie vise à reconnaître des Acadiens qui, par la qualité de leur travail dans le domaine littéraire, contribuent au rayonnement et à la promotion de l'Acadie dans le monde. Depuis 1998, le prix a versé 137 000 $ en bourse à 47 auteurs acadiens reconnus pour l'excellence de leur œuvre afin de les aider à poursuivre leur passion en création littéraire.
Et Daniel Aucoin a aussi travaillé le dossier de l'éducation en français dans la province où il vit et travaille, la Nouvelle-Écosse, où Becky Druhan, la ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance de la Nouvelle-Écosse, vient de déposer le projet de loi 321 du Conseil scolaire acadien provincial. Et bonne nouvelle, il devrait être adopté d'ici quelques jours. Ce projet de loi, donc 321, doit venir appuyer les programmes d'éducation publique en français en Nouvelle-Écosse. Ceci en vue, dit-on, d'assurer la réussite des élèves acadiens et francophones qui y vivent. La loi du Conseil scolaire acadien provincial, le CSAP, renforce aussi les responsabilités et pouvoirs existants du CSAP. Soulignons que près de 6300 élèves fréquentent les 23 écoles du CSAP de la province. Ce projet de loi serait d'ailleurs le premier à cibler l'éducation en français, langue maternelle, en Nouvelle-Écosse et même au Canada. Marcel Cotreau, président du CSAP, applaudit l'initiative qu'il estime être, ouvrez les guillemets, un moment historique pour notre communauté. Ce projet de loi permettra, dit-il, de concrétiser l'unicité langagière et culturelle du Conseil scolaire acadien provincial. Fin de citation. De nouveau, Daniel Aucoin, en compagnie cette fois de Marcel Cotreau.
Depuis 2018, il y a eu des réformes importantes dans la province lorsque la province de la Nouvelle-Écosse avait aboli les conseils scolaires anglophones. Et depuis ce temps-là, on attend un projet de loi unique et séparé pour le CSAP. Et finalement, hier, à l'Assemblée législative, ce projet de loi a été déposé qui va protéger davantage la gouvernance et la gérance du système français langue première dans la province. Alors, c'était vraiment un moment historique pour le français dans la province de Nouvelle-Écosse.
Alors, concrètement, la nouvelle loi, ça apporte quoi de plus au CSAP?
Ça va garantir qu'on va maintenir la gouvernance et la gérance du système. Alors, ça va protéger l'aspect d'avoir un conseil scolaire provincial qui sera élu par les ayants droit dans la province, alors que le système anglophone, ces conseils scolaires-là ont été abolis. Alors, l'importance de la gouvernance est très importante. Ça va être ancré et protégé pour des années à venir par la loi unique. Puis ça reconnaît l'unicité du CSAP, qu'on est unique, et puis que cette loi est séparée et distincte, qui va donner plus de consultation et de collaboration lorsqu'il y aura des lois futures ou des politiques qui vont impliquer le CSAP. Le ministère d'Éducation devra consulter avec le CSAP comment ces politiques vont impacter le CSAP. Alors, plus de collaboration et plus de coopération, consultation est maintenant codifié dans une loi unique pour le CSAP dans la province.
Est-ce qu'on peut dire que la Nouvelle-Écosse peut servir d'exemple pour l'ensemble du Canada en adoptant le projet de loi déposé?
En effet, c'est la première loi séparée qui reconnaît le droit à l'enseignement langue première dans une situation minoritaire. Souvent, et nous, ça a été le cas dans le passé, cette optique-là était à l'intérieur d'un système de loi anglophone, comme un sous-paragraphe ou des sous-articles. Maintenant, quand on va voir la loi, il va y avoir une loi séparée, la loi sur le conseil scolaire acadien provincial, puis là, la loi anglophone de l'autre côté. Alors, ça ressort bien plus l'unicité du CSAP. On a travaillé en collaboration avec le ministère d'Éducation, et puis là, le ministère des Affaires acadiennes a été impliqué aussi. Alors, ça fait une bonne collaboration entre les trois pour arriver à formuler le projet de loi qui a été déposé, pas de doute.
Alors, Marcel Cotreau, je rappelle que vous êtes président du Conseil scolaire acadien provincial ici en Nouvelle-Écosse. Merci d'avoir jasé avec nous au sujet de ce projet de loi à l'appui de l'éducation publique en français en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup et bonne chance.
Bien, merci à toi, Daniel, et puis de nous avoir écoutés.
Salut.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, comment ne pas vous parler cette semaine des tensions qui vont croissantes au Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien dont on craint de ne pas voir la fin dans un avenir rapproché. Les tensions montent au Proche-Orient alors que le Hamas et Israël traversent leur première quinzaine du conflit, un conflit qui s'envenime de jour en jour et au moment d'écrire ces lignes, beaucoup de choses se sont passées et encore plus depuis. L'aide humanitaire se rend au compte-gouttes dans la bande de Gaza, les tirs de roquettes et les bombardements ne connaissent quasiment pas de répit. Au Canada, les manifestations de soutien à Israël et à la Palestine se font remarquer d'un bout à l'autre du pays, dans le calme heureusement. C'était le cas à Ottawa lors du week-end du 15 octobre. Marie Hillès a préparé un reportage sur le conflit en donnant la parole à Ruby Daher, professeure adjointe École de développement international et mondialisation de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Elle s'est aussi entretenue avec Richard Marceau, avocat et vice-président du Centre des affaires israéliennes et juives au Canada. Ici, des extraits de ce reportage.
En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas autant de volonté de vraiment voir la distinction entre le Hamas comme entité et les humains qui sont là comme des Palestiniens. À mon avis, à moi, la manière dont Blinken a parlé quand il a visité l'Israël et même les mots qu'il a utilisés, c'était un peu frappant parce que ce qu'on voyait de son discours, c'est que c'était vraiment semblable au discours de George W. Bush quand ils ont décidé de rentrer en Irak.
La communauté juive d'Ottawa-Gatineau, de Montréal et de partout à travers le pays, a peur de ce qu'on voit et de ce qu'on entend.
Vous, comment vous vous sentez-vous personnellement quand vous voyez ça?
Je suis d'origine de Québec. J'ai par contre, aujourd'hui même, un fils qui est en Israël. Il faisait un stage lorsque tout a débuté. Je texte constamment avec lui. Il passe des heures dans les abris-bombes, dans les bunkers. Il est allé aujourd'hui à ses troisièmes funérailles pour des amis de sa copine qui, elle, est israélienne. Sur la route du retour, des attaques massives de missiles ont eu lieu. Alors, en tant que père, on a la boule au ventre, on craint. Et quand on entend, quand on voit ici ce qui se passe, lorsque j'entends, je vois des parents qui se demandent s'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, lorsque je vois une ministre du gouvernement fédéral, Mme Sachs, qui a dit plus tôt aujourd'hui que sa fille, dans le métro, avait peur de porter une étoile de David, de peur de se faire agresser. Au Canada, en 2023, on se rend compte que la situation pour la communauté juive est très problématique.
On vous vous invite à écouter la suite de ce reportage sur canada-info.ca. Marie Hillès nous y propose, entre autres, des rencontres avec des Palestiniens de la Cisjordanie, des rencontres qu'elle a eues avec eux il y a 11 ans. Jeunes Françaises de moins de 25 ans ont ramassé leurs clics et leurs claques. Destination Halifax, où elles vont aller au bout de leur service civique. Justine Poncin et Suzanne Le Bihan sont arrivées il y a quelques semaines seulement là-bas. Elles ont atterri à l'Alliance française d'Halifax, où elles, oui, travailleront durant un an. Leur mission, soutenir et promouvoir la francophonie, au étonnement. C'est aussi pour ces deux Françaises l'occasion de découvrir la culture et l'histoire acadienne, bien sûr. Elles en parlent avec notre journaliste Adèle Gros-Perrin.
Eh bien, pour l'instant, on a vu que des belles choses. On a beaucoup marché, on s'est beaucoup promené pour découvrir la ville. On a commencé à travailler donc la semaine dernière à l'Alliance française d'Halifax.
Ouais, moi j'adore la ville. J'étais beaucoup plus dans la découverte que Justine, qui est déjà allée dans le Maine ou qui avait déjà un peu des connaissances de l'Amérique du Nord. Moi, pas du tout. J'avais l'impression d'être dans une série américaine vraiment au début. Mais je trouve la ville hyper complète parce que voilà, il y a des endroits très résidentiels, très arborés, très verts où tu peux te promener. En même temps, t'as la mer, ça, moi, c'est ayant un cœur breton, c'était vraiment trop bien. Et c'est quand même vivant, mais ça reste une taille raisonnable. Donc vraiment, moi, pour l'instant, ça me plaît beaucoup.
Alors, on est bien accompagné pour toutes les étapes, pour apprendre à toutes les différences qu'il peut y avoir culturelles, etc. Faire les premières courses, voilà. Pour le logement, on a découvert la réalité d'Halifax et les difficultés liées au logement. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais normalement, tout est rentré dans l'ordre maintenant et donc on commence à s'installer aussi. Alors, on a pu aller boire un verre une fois avec Valentine, donc qui travaille au Conseil communautaire du Grand Havre et qui est aussi notre marraine de service civique, puisqu'elle est arrivée un petit peu avant nous. Mmh. Et elle nous a permis de rencontrer deux de ses amis qui sont acadiens. Donc ça a été l'occasion d'échanger un petit peu, d'échanger aussi sur nos différences linguistiques, ce qui était très drôle, bien sûr. Et puis notre rapport à l'Acadie. Alors on se familiarise tout doucement. On a visité Grand Pré la première semaine de notre arrivée. Donc on commence un petit peu à comprendre tous les enjeux, toutes les différentes communautés aussi qui existent en Nouvelle-Écosse.
Ouais. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup été avec des Français. On verra par la suite. Moi, j'ai bien envie, effectivement, d'ouvrir à la fois aux Acadiens et peut-être même à des non-francophones. Mais c'est sûr que ça va prendre un peu de temps de se glisser dans ces cercles-là.
Moi, je suis venue un petit peu sans a priori et sans attente particulière, juste m'enrichir de rencontres, aussi d'expériences professionnelles et personnelles. Donc je pense que la mission sera accomplie au bout d'une année.
Mais oui, moi, c'est un peu pareil. Je ne saurais pas bien formaliser quelles sont les attentes pour cette année. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'allais sans savoir ce que ça allait donner. Et c'est aussi l'idée juste de faire un an dans un cadre différent, de prendre vraiment une année de respiration, de rencontrer des gens, d'arriver dans un milieu où tu connais personne, où tu connais pas les pratiques, etc. Et juste de te laisser aller et de tenter des trucs que tu tentes pas en règle générale. Et on verra ce que ça donne. Et pour la question de habiter ici ou pas, moi c'est pareil, je pense qu'on sera plus ou moins obligé de rentrer un an, mais en soi je sais que ça pourrait me plaire d'habiter un peu plus longtemps à l'étranger, je pense.
Merci à Justine et Suzanne pour cette entrevue, c'était Adèle Bourigiel, Halifax.
Tenez, pendant qu'on est sur le thème de l'intégration à une nouvelle terre promise, prenons la direction de Toronto en Ontario où la foire bilingue de l'emploi a fait mouche il y a quelques jours en attirant près de 900 candidats. Employeurs et chercheurs d'emploi francophones se sont retrouvés le 12 octobre dernier au Metro Hall dans le centre-ville de la ville Rennes, espérant se rendre service l'un l'autre. Et cette 11e édition de la foire bilingue de l'emploi était organisée par le Centre francophone du Grand Toronto. 25 employeurs attendaient de pied ferme les candidats et candidates aux profils bien différents. Certains ne parlaient pas du tout anglais, d'autres débarquaient tout juste au pays et quelques-uns tentaient simplement d'être à l'affût de meilleures opportunités. Une rencontre où s'est posée notre journaliste Marine Autogali qui nous a ramené ce qui suit.
Alors aujourd'hui, on a la Foire de l'emploi bilingue. C'est un événement qui est très important pour les francophones, les nouveaux arrivants de la région de la GTA.
Myriam Taleb, gestionnaire du service d'emploi au Centre francophone du Grand Toronto.
Et c'est aussi très important pour les employeurs, parce que comme on le sait, on a autant d'employeurs qui cherchent de profils bilingues francophones que de chercheurs d'emploi qui cherchent des postes bilingues. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne occasion, la bonne opportunité pour mettre les deux ensemble. On travaille de façon quotidienne avec des employeurs en tant que service d'employabilité. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de demandes pour les profils francophones, pour les profils bilingues. Et c'est une demande qui ne va pas cesser d'augmenter, spécialement dans certains secteurs, comme par exemple le service à la clientèle, secteur de la banque, assurance, de la vente aussi. Donc là, la demande est liée. Donc, il y a de la demande vraiment. Aujourd'hui, avec nous, on a 25 employeurs qui sont présents, qui sont prêts, qui ont des opportunités d'emploi bilingue ou francophone.
Qu'est-ce qui fait que le reste du temps, ils ont du mal à se rencontrer, ces candidats et ces employeurs?
Je dirais que c'est plus simple quand ils sont face à face et puis quand ils peuvent en fait s'exprimer en face d'un employeur. Ça c'est plus simple en fait pour un candidat. Sachant que la majorité des francophones qui sont ici ou des francophones en général qui sont sur la région sont des nouveaux arrivants. Donc quand on vient et on n'est pas très à l'aise avec comment ça se passe, je dirais, en termes du marché de l'emploi, je pense que le réseautage en personne et des événements en personne, comme cet événement-là, ça aide beaucoup pour soit reprendre confiance, soit pour au moins avoir un premier contact avec comment ça se passe au niveau professionnel.
Ok, j'ai entendu parler de la foire des employeurs et je suis en quête d'emploi. J'ai rencontré Andira sur le stand de TMF. J'ai également échangé avec l'Odyssée. Voilà, l'Odyssée, je n'ai pas encore fini de tourner. Je suis à un stade où je veux vraiment mettre mes compétences de côté, expérimenter, découvrir et essayer de voir ou bien faire ressortir des qualités encore qui sont en moi. Je peux résumer que j'ai du mal à les retrouver pratiquement pour les quelques stands que j'ai pu visiter. Et j'ai du mal, voilà.
Alors, étant nouvel arrivant à Toronto depuis quelques mois, après une première expérience professionnelle qui s'est plutôt bien passée, donc là, je suis plus ouvert à quelque chose qui se rapproche un peu plus de mon domaine d'activité. Et vu que j'ai la chance d'être bilingue dans une ville qui est globalement anglophone, c'est ce genre de forum qui sont, on va dire, une porte ouverte, c'est ce qu'on recherche vraiment. Donc, c'est ce qui m'a amené ici. Donc voilà, donc là depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal d'entreprises et ça se passe plutôt bien. Donc j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu avec une offre, pourquoi pas. Toutes les offres que je reçois, j'en reçois. Je ne dis pas que j'en reçois pas, j'en reçois. Surtout qu'être bilingue à Toronto, c'est vraiment un gros plus. J'en reçois, mais ils sont tous en train de me ramener à la même, au même poste auquel j'avais. Et avec des salaires qui sont vraiment dérisoires. Et franchement, à un moment, il faut dire non. Faut avoir le courage de dire, c'est vrai qu'on a ce besoin d'argent parce que c'est une ville qui coûte assez cher, mais il faut avoir le courage de dire, je sais ce que je veux et je veux aller vers cela.
Et là, l'entretien que vous aviez avec la personne de Toyota, vous êtes ressorti avec le sourire, c'est par politesse ou ça vous plaît vraiment?
Ça me plaît vraiment parce que du coup, j'ai pu découvrir qu'à Toyota, ils ont vraiment la culture de pousser les gens à progresser, à s'améliorer. Là, j'ai vu que je pouvais entrer sur un poste pour lequel j'avais les compétences de base et plus tard déboucher sur le poste pour lequel j'ai eu mon diplôme. Donc, c'est quelque chose qui m'a véritablement fait sourire. Et là, la dame, elle m'a donné son adresse personnelle, son LinkedIn, pour pouvoir se souvenir de moi quand je vais appliquer directement. Ça ira peut-être à la poubelle ou pas, on ne sait pas, mais c'est déjà un bon plus, déjà.
Oui, alors, je représente Toyota Crédit Canada. Et ma collègue et moi, nous travaillons dans le département de service à la clientèle. Et c'est toujours, c'est un atout, premièrement, de pouvoir parler français ici à Toronto. On a vraiment des fois la difficulté de trouver les candidats francophones. Et c'est important parce que dans notre business, euh, on, On est une compagnie qui fait affaire dans le Québec, le Nouveau-Brunswick, et c'est très important de pouvoir servir nos clients dans leur langue.
Alors moi, je suis présente pour le Petit Chaperon Rouge. Donc on est une compagnie de garderie francophone à Toronto. On a 7 centres. On accueille les enfants de 3 mois à 12 ans. Ce qui est compliqué, c'est pas de trouver des personnes dans la petite enfance, mais c'est de trouver des personnes à Toronto dans la petite enfance et qui parlent français, puisqu'on est une entreprise vraiment 100% francophone. C'est un peu notre défi. On a beaucoup de personnes francophones. C'est juste que la plupart des personnes ont une expérience ou un diplôme à l'extérieur du Canada, et ça, malheureusement, nous, on prend en compte l'expérience, mais pour être assistant, ce qu'on propose à ce type de personnalité, c'est que ils rentrent chez nous comme assistants. Et puis après, on a des organismes comme la Cité ou le Collège Boréal qui proposent la formation à distance et pour les personnes qui travaillent à temps plein.
On avait beaucoup d'attentes pour la foire, mais elle a dépassé nos attentes.
Florence Nguézé-Bouaro, PDG du Centre francophone du Grand Toronto.
Parce qu'on s'attendait à peu près 700 personnes, mais là, on a 900. Donc, on est très, très heureux. Puis les commentaires des gens sont très positifs aussi.
C'est vous qui allez chercher les employeurs ou c'est les employeurs qui répondent à un appel d'offres pour être présents sur les stands?
Ce sont nos services d'emploi qui travaillent en partenariat avec une banque d'employeurs déjà.
Aïssa Noutou, vice-présidente du Centre francophone du Grand Toronto.
Et bien sûr, ceux qui ne sont pas nos partenaires, on va aller les chercher aussi pour la foire d'emploi.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour les employeurs à trouver des candidats francophones sur Toronto?
Ah, définitivement, parce que je pense que les candidats bilingues, on va dire, ou francophones, ne sont pas toujours au courant des opportunités qui existent. Alors, et puis il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants, on va dire, qui ne connaissent pas encore le système. Donc c'est définitivement un défi parce que si on a eu 900 personnes, ça veut dire qu'il y a vraiment 900 personnes qui sont à la recherche de l'emploi, alors que de l'autre côté, on nous dit qu'il y a un manque de candidats bilingues. Donc je me demande c'est quoi le problème.
Oui, c'est ma question. Pourquoi les employeurs ont du mal à atteindre les candidats francophones? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous avez du mal à... Vous avez des stands en plus aujourd'hui à rencontrer des candidats francophones ou bilingues?
Je pense que c'est une question de vivre dans une ville anglophone comme Toronto aussi. Il y a beaucoup d'assimilation. Les nouveaux arrivants qui arrivent ne sont pas au courant des ressources francophones telles que le centre francophone et ses services d'employabilité. Alors, naturellement, la tendance est qu'ils vont aller vers les employeurs anglophones. Mais je pense qu'avec des opportunités comme la foire d'emploi d'aujourd'hui, ça leur permet vraiment d'avoir un forum où ils peuvent rencontrer en personne ces employeurs qui cherchent des candidats bilingues pour combler leur poste.
Merci à Marine Autogali à Toronto. Et c'est là-dessus que se termine cette autre édition de Point de vue. Nos reporters Marie Hillès, Marie Notogadi, Daniel Aucoin, Yadel Gros-Perrin, coordonnateur national Stéphane Bénard, Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Merci beaucoup d'être là. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.